Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
Ceux qui cherchent à tirer des avantages politiques d'un drame national n'apportent finalement pas grand-chose à la résolution de leurs difficultés.
La colère de Jean Castex à la tribune de l'Assemblée face aux critiques de l'opposition, ulcéré d'être appelé à se prononcer sur des mesures déjà prises la veille par Emmanuel Macron, une mascarade, un piétinement du Parlement, dénonce la gauche comme la droite. Le Premier ministre a précisé que la consommation d'alcool sur la voie publique est désormais interdite, ce qui laisse perplexe de nombreux Français. On leur demande de se confiner dehors, mais pour boire entre amis, c'est à l'intérieur. Le pic épidémique pourrait être atteint d'ici 7 à 10 jours, selon Olivier Véran. Il faudra ensuite 2 semaines supplémentaires pour atteindre le pic en réanimation. Beaucoup trop optimiste pour l'épidémiologiste Catherine Hill. Au sommaire également, après Strasbourg, l'association islamique Miligorus est sur le point de construire une salle de prière à Mulhouse. Le démantèlement dans le sud de la France d'un réseau de trafic de cocaïne particulièrement bien rodé. Et puis la disparition de Patrick Juvet à l'âge de 70 ans. Nous rendrons hommage au chanteur d'où sont les femmes. La météo, elle va changer à partir de demain avec une nette baisse des températures sur la moitié nord et l'arrivée des nuages par le sud-ouest, nous dira Anissa Haddadi. La bourse de Paris, elle a clôturé ce soir en hausse, plus 0,59% à 6102 points. Tous les détails à venir dans Top à Wall Street avec Didier Hamo de boursier.com. L'interview éco dans 20 minutes. Peugeot s'en sort mieux que ses concurrents. La marque Orion est devenue le premier constructeur français au premier trimestre. Sa directrice générale, Linda Jackson, sera l'invitée ce soir d'Aurélien Fleureau. Enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Au lendemain du nouveau tour de vis sanitaire annoncé par le président, c'est donc Jean Castex qui a assuré le service après-vente aujourd'hui. Le Premier ministre est venu devant le Parlement préciser les mesures évoquées hier soir par Emmanuel Macron et appeler une nouvelle fois les Français à la responsabilité. Jean Castex a été très clair, pas de cadeau pour ceux qui bafoueront les règles.
Je veux devant vous condamner sans réserve l'irresponsabilité dont font montre certains, se croyant sans doute invincibles aux ravages de la maladie qui pourtant nous démontre chaque jour le contraire. J'ai demandé au ministre de l'Intérieur d'accroître le nombre de policiers et de gendarmes affectés à cette tâche. Ces comportements, qu'il s'agisse de rassemblements festifs, du non-respect du couvre-feu ou du refus du port du masque, nous devons les prévenir et les sanctionner.
Sanctionner tous les écarts, demande donc le Premier ministre, qui a par ailleurs dévoilé une nouvelle mesure. La consommation d'alcool est désormais proscrite sur la voie publique. Fini les bières ou bouteilles de vin débouchées au parc, au soleil, avec ses amis. Alors évidemment, on comprend que c'est pour éviter les fêtes sauvages, comme mardi soir à Lyon, où 300 personnes se sont réunies sur les quais de Saône. Mais tout de même, cette nouvelle règle suscite l'incompréhension. On nous demande d'être à l'extérieur, mais désormais, pour trinquer entre amis, il faut être en intérieur, là où les risques de contamination sont décuplés. Un confiné dehors sans alcool qui laisse les Français perplexes, comme a pu le constater Jean-Jacques Herry dans les rues de Paris.
En cette fin d'après-midi, les quais du canal Saint-Martin, au lieu des apéros parisiens, se remplissent peu à peu. On y retrouve Edgar, qui a déjà fini le sien. 4 bouteilles de bière vides vont en rejoindre quelques autres dans la poubelle.
Si ça peut réguler un peu, pourquoi pas? Si on peut trouver des solutions pour freiner le virus, je suis complètement d'accord. Après, au point d'en arrêter l'alcool, je pense qu'il faut juste aux gens d'avoir du bon sens, quoi, mais...
Le bon sens et la responsabilité. Clément regrette qu'on n'y fasse pas assez appel. Alors il savoure une de ses dernières gorgées de bière au soleil avant l'interdiction, dans un gobelet en plastique, avec son ami Jérémy.
C'est raisonnable, je veux dire, on n'est pas 10 en train de picoler. Donc...
Ça ne va pas empêcher les gens de se rassembler dehors. On peut consommer de l'eau, des boissons sucrées, ça ne changera pas grand-chose finalement. Les gens continueront de se regrouper au soleil.
Il y a aussi cette impression qu'on vous enlève encore un de ces petits plaisirs simples de la vie, un de plus, et on sent déjà poindre une pointe d'indiscipline.
Je ferai attention, je zioterai l'arrivée de la police, mais je continuerai de consommer de l'alcool.
Une petite bière avec le temps qu'il fait en ce moment, nous on adore. Les gens ils mettront des mélanges dans leurs bouteilles et ils menteront et ils diront que c'est du sirop de menthe alors que ça sera du Jet 27.
Quelques-uns font également remarquer, parfois avec un petit sourire, que si l'alcool sera bientôt interdit dehors, il sera toujours autorisé en intérieur.
Le reportage à Paris signé Jean-Jacques Herry pour Europe 1. Pas d'alcool en extérieur donc, c'est l'une des mesures annoncées tout à l'heure par Jean Castex, qui a par ailleurs confirmé que les déplacements seraient fortement limités dans tout le pays. Pas plus de 10 km autour de chez soi. Attestation au-delà, avec un ajout à la case motif impérieux. Les enfants, on pourra, pendant toute la durée du confinement, les emmener ou aller les chercher chez leurs grands-parents ou chez un proche. En revanche, les assistantes maternelles n'accueilleront plus d'enfants. À l'annonce de ces mesures, les esprits se sont échauffés dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale où a eu lieu un débat suivi d'un vote. Certains députés n'ont pas manqué de railler la lenteur de la réaction gouvernementale face à cette troisième vague, critique qui en fait sortir Jean Castex de ses gonds. Écoutez.
Et j'ai entendu chez beaucoup d'intervenants l'idée que finalement elle serait trop tardive, elle serait insuffisante. Mais quelle était la musique de ces interventions? Les commerces ne les fermaient pas. Les stations de ski ne les fermaient pas. Les universités, rouvrez-les. Les établissements publics culturels, rouvrez-les. J'ai entendu ça depuis des semaines. Et aujourd'hui, voilà que nous serions trop mous, trop tardifs. C'est formidable.
Alors c'est rare d'entendre le Premier ministre aussi offensif. Il faut dire que l'opposition ne l'a pas ménagé, Claudia Bertram.
Oui, l'opposition, tout bord confondu, a tiré à boulet rouge sur l'exécutif. Dès les premières minutes de l'intervention du Premier ministre, des huées ont retenti à droite comme à gauche de l'hémicycle. Et tous les groupes d'opposition ont décidé de tout simplement boycotter le vote, dénonçant une mascarade, comme le chef de file de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon.
C'est un mauvais poisson d'avril. Et le poisson d'avril, comme tous les poissons, pourrit par la tête. Nous refusons de voter. Nous ne sommes pas votre public voué à vous acclamer. Nous en avons assez de voir l'Assemblée exclue de la discussion sur la stratégie à mettre en œuvre contre la pandémie.
Parodie de démocratie dénonce aussi le patron des députés LR, Damien Abad, qui, à la tribune, étrille la gestion de la crise par l'exécutif.
La vérité, c'est que vous avez été débordés par cette épidémie. La vérité, c'est que le virus avance plus vite que la vaccination. Votre stratégie de vaccination, ce n'est plus un pari perdu, c'est une bérésina sanitaire.
La présidente du RN, Marine Le Pen, a quant à elle voté contre, estimant indigne que le gouvernement cherche à diluer sa responsabilité. Les nouvelles mesures de restriction ont toutefois été largement approuvées par l'Assemblée grâce à la majorité qui a fait bloc derrière le Premier ministre lors de ses passes d'armes dans l'hémicycle.
Claudia Bertram du service politique d'Europe 1. J'ajoute qu'au Sénat également, les groupes d'opposition ont massivement boycotté le vote, ce qui n'a pas empêché l'adoption des nouvelles restrictions. Ce nouveau tour de vis produira ses effets rapidement, selon Olivier Véran. Le pic des contaminations pourrait être atteint d'ici 7 à 10 jours. Quant au pic dans les services de réanimation, il faudra attendre la fin du mois d'avril, précise le ministre de la Santé. Optimiste donc sur l'impact des mesures, un optimisme que ne partage pas l'épidémiologiste Catherine Hill.
C'est très utopique. Moi, je regarde juste les arrivées à l'hôpital qui augmentent rapidement et les arrivées en réanimation qui augmentent parallèlement. Et je me dis que l'augmentation des arrivées à l'hôpital va se traduire par une augmentation encore avec retard en réa. Et je ne vois pas comment les mesures qu'on prend, qui consistent à aligner tous les départements sur l'Île-de-France, Hauts-de-France, etc., où les mesures n'ont pas du tout été efficaces, ça va changer quoi que ce soit. Et dans les écoles, on nous a répété à longueur de temps que les enfants ne se contaminaient pas dans les écoles, ce qui était visiblement faux, mais supprimer les contaminations dans les écoles, ça ne va pas avoir un effet suffisamment important. Sans contexte, il peut y avoir des effets paradoxaux. On va retirer les enfants des écoles, donc qu'est-ce qu'on va faire? Les gens vont aller les emmener chez les grands-parents qui habitent ailleurs, donc ça va déplacer, ça va encore augmenter les contacts que les gens ont.
L'épidémiologiste Catherine Hill de l'Institut Gustave Roussy, joint pour Europe 1 par Jean-Sébastien Soldaini. Sévère est aussi l'Organisation mondiale de la santé vis-à-vis de l'Europe. L'OMS critique la lenteur, je cite, « inacceptable » de la campagne de vaccination, alors qu'on a appris aujourd'hui que le vaccin russe Sputnik V ne sera pas autorisé au sein de l'Union européenne avant la fin juin. En Suède, face à ce manque de doses, les autorités repoussent de 2 mois l'objectif qu'elles s'étaient initialement fixé, la vaccination de tous les adultes volontaires d'ici fin juin. L'échéance est donc décalée à la fin août. Et puis Roselyne Bachelot est sortie de l'hôpital où elle avait été admise il y a une semaine pour des complications liées au Covid. La ministre de la Culture va maintenant entamer une période de convalescence selon son entourage.
Europe 1,
le 22-22-30.
C'est une organisation qui pratique un islam politique et n'a pas vocation à exister dans la République. Ce sont les mots du porte-parole du gouvernement au sujet de Milli Görüs, cette association islamique turque au cœur d'une polémique sur le financement du chantier de sa mosquée par la mairie de Strasbourg. Eh bien, Milli Görüs, on l'a appris tout à l'heure, a lancé un projet similaire à Mulhouse, Romain Oquet.
Oui, l'association a déposé une demande auprès de la mairie il y a quelques jours. Il s'agit d'une salle de prière qui doit être aménagée dans un hangar d'environ 700 mètres carrés. La différence avec Strasbourg, c'est que cette fois, la mairie de Mulhouse est opposée à ce projet lancé en 2013. Elle a d'ailleurs tout fait pour l'empêcher. Un bras de fer juridique, raconte Paul Quin, l'adjoint en charge des cultes.
Nous avons déployé toute notre énergie et tous les recours possibles pour éviter l'installation de cette mosquée. Milli Görüs fait partie de ces associations qui a refusé de signer la charte. C'est pour nous une association qui n'est pas en accord avec les principes de la République, avec tout simplement la laïcité.
Alors après 8 ans de procédure, la mairie de Mulhouse n'a plus aucun levier pour interdire l'installation de cette salle de prière, parce que juridiquement, administrativement, rien ne s'oppose à ce projet. L'association est dans les clous. Les élus misent donc sur une dernière carte, une intervention de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, comme c'était le cas pour Strasbourg.
Roman Oquet, autre polémique à Perpignan. Cette fois, la ville a dévoilé son nouveau blason et il est loin de plaire à tout le monde. On y voit un saint, Saint Jean-Baptiste, sur fond de drapeau catalan, le tout bordé d'une bande bleu-blanc-rouge. Ringard pour l'opposition locale qui dénonce le retour des symboles religieux dans un pays laïque. C'est notre culture, la catalanité est très liée à la religion, répond Louis Alliot, le maire Rassemblement National de Perpignan. 60 CRS ont été envoyés ce soir en renfort à Creil, dans l'Oise, après 2 nuits de violences urbaines dans un quartier sensible. Tirs de mortiers d'artifice, de pierres ou de cocktails Molotov, 2 policiers ont été légèrement blessés. La procureure de Marseille salue une saisie magnifique. 70 kilos de cocaïne ont été interceptés hier à Beaucaire, dans le Gard. La drogue, en provenance des Pays-Bas, a été revendue dans un vaste territoire entre l'Hérault, les Alpes-Maritimes et la Drôme. Un coup de filet opéré sur le vif, comme dans les films, en pleine transaction, suivi d'une série de perquisitions qui a permis de mettre la main sur d'importantes sommes d'argent. Fin de parcours donc pour un réseau bien rodé et très actif, Stéphane Frangy.
Oui, avec des transactions régulières mais bien préparées, et un chauffeur routier lituanien qui effectue sa toute dernière livraison mardi soir, suivi de loin jusqu'à une zone d'activité. Le piège est tendu, le GIGN attend simplement la transaction le lendemain à l'aube. Interpellation, perquisition, tout s'enchaîne rapidement et les sommes saisies sont colossales. Se félicite le commandant de la section de recherche de la gendarmerie de Marseille, Dominique Lambert, et qui a consacré 1 an et demi à cette enquête.
Une filière qui est particulièrement bien rodée, avec un chauffeur habitué à ce type de transactions. L'enquête a été longue et difficile. Nous étions face à des adversaires très rodés aux mesures de contre-surveillance, de contre-filature. Les sommes en jeu sont effectivement assez importantes, puisque nous avons saisi au total 3,4 millions d'euros. Donc nous avons à la fois les stupéfiants, l'argent, et nous avons démantelé l'ensemble du réseau dans la foulée.
Et ce travail d'enquête donc n'est pas fini pour autant. Place maintenant au volet patrimonial, puisque les membres présumés de ce réseau auraient réinvesti l'argent de la drogue dans un certain nombre de commerces et de biens immobiliers.
Stéphane Frangy, correspondant d'Europe 1 à Marseille. On passe au foot avec ce nouvel accro entre Jean-Michel Aulas et la sélectionneuse de l'équipe de France féminine, Corinne Diacre. On savait déjà que ces deux-là ne s'apprécient pas trop. Et bien cette fois, ce qui met en colère le président de l'OL, c'est la décision de convoquer chez les Bleus 3 Lyonnaises, alors qu'un cluster a été identifié dans le club, Cyril de la Morinerie.
Oui, les tests pratiqués ces 48 dernières heures ont révélé 4 nouveaux cas positifs, portant à 10 le nombre total de joueuses et membres du staff contaminés au sein du club lyonnais. Malgré tout, Corinne Diacre n'a pas hésité à convoquer les Lyonnaises, Amandine Henry, Eugénie Le Sommer et Sakina Karchaoui pour le prochain stage. Dans un message sur Twitter, Jean-Michel Aulas a fait part de son désaccord. Tout ceci n'est pas très prudent car elles sont qu'à contact. Ce n'est pas raisonnable, écrit-il. Mais la sélectionneuse maintient sa position.
Pour le moment, les trois joueuses convoquées ce matin ne font pas partie des quatre positives. Donc, à ce jour, je me laisse encore une chance. Et dans la mesure où les joueuses lyonnaises, après l'isolement de 7 jours, pourront présenter un test PCR négatif, il n'y avait aucune raison de se poser des questions ou de douter.
Une décision qui provoque des remous alors que les relations entre les lyonnaises et la sélectionneuse sont très fraîches. Après la Coupe du Monde 2019, Amandine Henry s'était plaint du management et du manque de psychologie de Corinne Diacre. Finalement, les Bleus se sont qualifiés dans cette drôle d'atmosphère pour l'Euro 2022. Les joueuses sont donc attendues lundi à Clairefontaine avec un test PCR négatif. Elles affronteront en Normandie à huis clos l'Angleterre et les États-Unis, double championne du monde.
Cyril de la Morinerie. C'était redouté, c'est désormais officiel. La course cycliste Paris-Roubaix a été reportée du 11 avril au 3 octobre en raison de la situation sanitaire. L'an dernier, la reine des classiques, comme on l'appelle, avait déjà été reportée à l'automne et finalement annulée pour le même motif. On a tous dansé un jour sur l'une de ses chansons. Patrick Juvet, la star du disco des années 70, est décédé. On l'a appris en début de soirée. Le chanteur suisse aux longs cheveux blonds avait 70 ans. Son corps a été retrouvé dans un appartement à Barcelone et les causes de sa mort ne sont pas encore établies. Patrick Juvet, c'était bien évidemment Où sont les femmes, mais sa carrière ne se résumait pas uniquement à un tube. Angèle Châtelier.
Ce n'est pas étonnant que des notes de piano résonnent sur l'un de ses plus grands succès, la Musica, sortie en 1972.
C'est la Musica.
Car précoce, la musique dans les veines, Patrick Juvet gagne un prix de piano au conservatoire de Montreux à seulement 6 ans. Et ensuite, l'art dans la peau, il suit des cours d'art déco, s'essaye au mannequinat, puis écrit, d'abord pour les autres, des tubes, comme le Lundi au soleil qu'interprète Claude François. Mais avec la Musica qui se vend à 1 million d'exemplaires, il devient une vedette, adulée, représente même la Suisse à l'Eurovision.
Vive la mariée!
Il fait la couverture des magazines People avec son look explosif, ses cheveux blonds impeccablement lissés et ses vestes en cuir qui oscillent entre le glamour et le rock. Un look qui participe d'ailleurs à faire de lui une icône gay. D'un côté, il ne fait pas de mystère sur son amour des hommes et de l'autre, chante « Où sont les femmes ?», fruit d'une prolifique collaboration avec le DJ Jean-Michel Jarre. Ces tubes dépassent alors les frontières. I Love America est numéro 1 aux États-Unis, mais la gloire et le goût pour la vie nocturne amènent son lot d'excès et d'addictions, auxquels Patrick Juvet n'échappe pas. Son succès plus timide dans les années 90 ne l'y aide pas. Mais pendant ses 20 ans de carrière, Patrick Juvet, hypersensible, excentrique, aussi bien vedette populaire que disco, aura toujours su capter l'air du temps.
Signé Angèle Châtelier pour Europe 1. La météo, Anissa Haddadi, les nuages arrivent.
Oui, c'est une petite dégradation, Julien, qui effectivement arrive demain et va toucher surtout les reliefs avec de nombreux nuages sur le Jura, les Alpes, le Massif central et les Pyrénées. Des petites averses sont donc possibles dès le début de la journée et pourront même devenir orageuses dans l'après-midi. C'est dans le sud-ouest, demain, sur l'Aquitaine et l'Occitanie, que le ciel sera le plus nuageux. Dans le nord, la grisaille arrive, là aussi, et la bise souffle toujours, donc une impression encore de fraîcheur. Et puis dans le sud, sur le littoral du Var et des Alpes-Maritimes, là nous aurons toujours des entrées maritimes. Partout ailleurs, je vous rassure, le soleil domine encore demain. Les températures matinales, elles sont un petit peu plus fraîches et varient entre 4 et 14 degrés. 4 à Lille et Clermont-Ferrand, 7 à Paris et Marseille, 9 pour Besançon, 11 à Bordeaux et déjà 14 degrés pour Biarritz demain matin. Dans l'après-midi, ça baisse. Mais les valeurs restent au-dessus des normales de saison, avec 12 degrés à Lille, 14 à Caen, 17 à Nice, Brest et Paris. Là, ça a bien baissé. 19 pour Bastia et Rennes, 20 degrés à Blois, 24 pour Toulouse, 26 à Bordeaux et 28 la maximale, toujours pour Brive-la-Gaillarde.
Merci à vous. Restez avec nous. Dans un instant, toutes les infos de la bourse. Top à Wall Street avec Didier Hamot de boursier.com, suivi de l'interview écho d'Aurélien Fleureau. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h19 sur Europe 1, bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre, c'est l'heure de Top à Wall Street. Toutes les infos de la bourse avec Didier Hamot de boursier.com, bonsoir Didier.
Voilà, ça va mieux avec ça, le micro ouvert, hein, c'est beaucoup mieux. Hein. Bonsoir Julien.
Bonsoir, Wall Street poursuit son rebond entamé hier.
Oui, ça monte avec un Dow Jones à plus 0,52%, 33 153 points. C'est surtout le Nasdaq qui accélère nettement, plus 1,76%, 13 480 points. L'énorme plan de relance proposé par Joe Biden, de 2 250 milliards de dollars ciblés sur les équipements et les infrastructures, plaît au marché. Et cette fois, les variations sont nettes hein, sur les valeurs de technologie. On a des valeurs comme Amazon plus 2%, Google plus 3,2%. Apple plus 0,7%, Facebook plus 1,4%, Microsoft gagne 2,8%. Microsoft a signé un contrat gigantesque de 22 milliards de dollars avec l'armée américaine pour des équipements de réalité augmentée, en particulier pour 120 000 casques dits intelligents. Microsoft en hausse ce soir de 2,8%. Le pétrole repasse les 60 dollars au-dessus à 61 dollars, c'est plus calme quand même, alors que l'OPEP va progressivement rouvrir les vannes de sa production après la remontée récente des cours. L'euro aussi assez calme, il remonte un peu, 1,1780 face au dollar.
La Bourse de Paris a quant à elle dépassé les 6100 points au plus haut depuis un an.
Là aussi ça monte, oui, plus 0,59%, 6102 points au plus haut depuis le début 2020, effectivement. Le marché était calme hein, avant un long week-end pascal de 4 jours, il n'y aura pas de cotation demain, donc beaucoup de valeurs de taille moyenne ont rebondi en visant une reprise de la croissance à partir du deuxième semestre. Ce sont essentiellement des valeurs industrielles comme Soitec, plus 4%, ou Chargeur, Holot aussi, plus 4%. Et puis le secteur aéronautique remonte, Airbus plus 4% aussi et Thales, l'équipementier, plus 3%.
Exception du jour, le groupe de services informatiques Atos qui a lourdement chuté.
Oui, forte baisse, hein, moins 12,4%, 58,26 €. Les commissaires aux comptes qui auditent les résultats du groupe Atos ont émis une réserve importante concernant deux entités juridiques américaines représentant quand même 11% du chiffre d'affaires d'Atos. Ça fait désordre, ça ne plaît pas au marché qui corrige donc fortement le titre, moins 12,4% ce soir. Les autres places financières sont en hausse partout, le DAX à Francfort plus 0,6%, Bruxelles plus 1%, Milan plus 0,2% et le CAC 40 en hausse de 0,59%, 6102 points.
Merci beaucoup Didier Hamot de boursier.com et je ne vous dis pas à demain puisque demain, ça y est, c'est férié, il n'y a pas de bourse, c'est le vendredi saint. 22h21 sur Europe 1, on passe à l'interview éco. Aurélien Fleureau, c'est à vous.
Bonsoir Linda Jackson.
Bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes la toute nouvelle directrice générale de Peugeot au sein du nouvel ensemble Stellantis. Vous avez longtemps été la patronne de Citroën, évidemment. Si j'ai voulu être en ligne avec vous ce soir, c'est d'abord parce que l'on connaît depuis ce matin les chiffres du marché automobile pour le premier trimestre 2021. Alors comment Peugeot s'en sort tout simplement dans ce contexte général qui est compliqué pour le secteur ?
Oui, c'est un petit peu compliqué, mais franchement, nous avons des résultats très bien. Les résultats de mars sont bons, mais effectivement, si on regarde le premier trimestre, Peugeot, c'est le premier constructeur français avec une part de marché de 19%, donc en croissance par rapport à 2020, qui était à 16%. Le Peugeot 208, c'est le plus vendu, la voiture la plus vendue en France. Et enfin, c'est super parce que Peugeot a 5 véhicules qui sont leaders de le segment en France.
Donc un bon démarrage 2021. Donc là, effectivement, les chiffres pour la France. Alors c'est vrai que c'est compliqué de comparer sur un an hein, avec le confinement très dur du mois de mars 2020. Si on prend au niveau européen, sur janvier-février notamment, là, vous parvenez à devancer vos concurrents, notamment grâce à deux modèles qui donc marchent en France, vous l'avez dit, mais aussi au niveau européen, à commencer par 208 et 2008. Hein.
C'est exactement ça. C'est un énorme succès. Le Peugeot 208, c'est la voiture la plus vendue en Europe, et le 2008, c'est le quatrième, en hausse de 64% par rapport à 2020. Et franchement, c'est le fruit du travail par les équipes depuis plusieurs années. Et aussi, c'est un bon signe parce que nous sommes au moment chez Peugeot de lancer la toute nouvelle Peugeot 308 et aussi, évidemment, de renouveler son logo. Donc, c'est un bon signe qu'effectivement, tous les choix que nous avons faits en termes de stratégique, effectivement, a donné le fruit de succès. Donc, c'est un bon signe.
Et ça permet d'accompagner le positionnement de la marque Peugeot au sein de Stellantis, une marque qui se veut peut-être un petit peu plus premium. Comment vous pouvez l'expliquer avec notamment cette ambition de présence aussi sur le marché européen ?
Oui, donc effectivement, chez Stellantis, maintenant, Peugeot a un positionnement qui est bien défini. C'est d'être un constructeur généraliste haut de gamme. Et je dis généraliste haut de gamme parce que nous sommes toujours accessibles. Et ça, c'est très important pour nos clients. Mais toutes les marques de groupe Stellantis sont en positionnement clair parce que franchement, notre objectif, c'est d'être complémentaire. Ce n'est pas d'avoir une concurrence entre les marques. Donc, oui. Peugeot a un positionnement très clair. autour de nos valeurs, trois valeurs très simples: excellence, donc qualité de finition, performance, alors toujours un design extérieur et intérieur. Et le troisième valeur qui est très important pour nous, c'est l'émotion. Donc, c'est le plaisir de conduire, mais aussi à l'intérieur, cette ambiance avec le fameux iCockpit. Donc, franchement, depuis 10 ans, nous avons travaillé chaque jour pour mettre cette position en place. Et mon objectif est de continuer ça, de rester un marque leader et innovante face à la concurrence. Et la seule chose, je peux dire que nous sommes une réussite en Europe. Et maintenant, je veux que Peugeot devienne plus international.
Alors, ça pourrait être dans quel pays, sur quel continent? Quels sont les objectifs les plus à court terme pour cette présence de Peugeot à l'international?
Pour moi, il y a trois régions qui sont très importantes. Le premier, c'est Amérique latine, où nous sommes déjà implantés, mais nous avons des objectifs pour croissance. Le deuxième, c'est le Moyen-Orient-Afrique. Et le troisième, c'est la Chine. Donc, on va attaquer les trois régions avec notre gamme qui est globale, mais aussi pour la région Moyen-Afrique-Orient et Amérique latine, nous sommes en train de lancer un nouvel modèle qui s'appelle Land Trek Pickup, qui est fait, développé et fait spécifiquement pour les deux régions.
Autre sujet majeur en ce moment dans l'industrie automobile, cette pénurie de semi-conducteurs qui sont, pour faire simple, à la base de tous les composants électroniques. Ça continue de perturber tous les constructeurs. Quelles sont les conséquences concrètes pour Peugeot en ce moment?
Alors, première chose, c'est que cette crise concerne l'ensemble du monde automobile. Et c'est dans un contexte aussi de crise sanitaire qui fait fluctuer le marché. Donc, ça, c'est le monde automobile. Chaque jour, il y a quelque chose qui arrive. Donc, effectivement, une société automobile, il faut être agile. Et donc, c'est exactement notre stratégie. Depuis le début, nous pilotons au quotidien, usine par usine, et on trouve des solutions pour parvenir à nos objectifs. Et je pense que nous avons la preuve depuis 2013-2014 chez PSA, mais Peugeot aussi, que nous sommes un constructeur agile, efficace, et effectivement, nous adaptons aux différentes crises quand il arrive.
Parce que c'est vrai que pour bien expliquer, pour que les auditeurs qui ne sont pas forcément des experts du secteur automobile comprennent bien, concrètement, ça veut dire que vous devez peut-être prioriser certains modèles selon les commandes, vraiment vous adapter, vous l'avez dit, au quotidien, en fonction de ce que vous avez sous la main?
C'est exactement ça. C'est chaque usine, chaque modèle, et donc en adaptant... pilotage jour par jour. C'est comme ça la vie d'automobile maintenant. Il y a toujours quelque chose qui arrive.
Est-ce qu'il y a un petit peu de positif sur des solutions à moyen, long terme? On a vu notamment là, très récemment que le fabricant taïwanais TSMC vient d'annoncer une enveloppe de 100 milliards de dollars pour augmenter ses capacités de production. Des solutions européennes qui vont peut-être aussi se mettre en place, même si ça prend évidemment du temps. On peut déjà commencer à imaginer des manières d'éviter ce type de pénurie à l'avenir?
Donc, évidemment, on cherche toutes les solutions pour trouver le fin de cette crise. Il y a beaucoup, mais franchement, c'est aujourd'hui, la première chose, c'est pilotage jour par jour. En même temps, on cherche les solutions moyen terme et en même temps, on cherche les solutions long terme. Donc, effectivement, c'est ça.
Merci à vous, Linda Jackson, d'avoir répondu ce soir aux questions d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de Peugeot, dont on le retient, la 208 est la voiture la plus vendue en Europe en 2021 jusque-là. À demain, 22h20, pour l'interview Echo sur Europe 1.
Merci beaucoup, Aurélien Fleuron. On vous retrouve également demain à 13h dans La France Bouge avec Elisabeth Assayag, émission consacrée à l'autisme à l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation à ce trouble du neurodéveloppement. Vous recevrez notamment Olivia Catan, la présidente de SOS Autisme France. 22h29 sur Europe 1 et voici donc ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux. On commence avec Libération. Soignants, marre d'être patients, titre Le Quotidien. Des soignants qui ont vu rouge hier soir en écoutant l'intervention du chef de l'État et pour cause, Emmanuel Macron leur a demandé un effort supplémentaire pour augmenter les capacités en réanimation. Un bout de phrase qui est très très mal passé dans les hôpitaux sous pression constante depuis l'automne dernier. On a envie de lui dire, faites-en vous des efforts pour l'hôpital, ça fait des mois qu'on est sur le pont et qu'on subit des restrictions budgétaires, s'indigne un médecin. On a atteint le seuil de saturation, renchérit Olivier Auguste dans l'Opinion. On peut déplorer l'imbécilité des fêtes sauvages sans masque et des restaurants clandestins, mais nous sommes ainsi faits que la lassitude inexorablement prend le dessus sur le civisme, écrit l'éditorialiste qui ajoute « On voit mal ainsi comment ce reconfinement ne serait pas le dernier ou comment un autre serait respecté. » Le respect des règles, c'est justement un point que l'on retrouve à la une du Figaro qui publie un sondage. Si une majorité de Français approuvent les mesures de restriction, une large partie d'entre eux, en revanche, ne compte pas les appliquer scrupuleusement. 46% des sondés, très exactement, affirment qu'ils vont s'autoriser quelques écarts, voire bafouer ces règles ou s'y opposer.